Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Des frères d'armes, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron qualifie la relation entre la France et les États-Unis. Deux alliés qui se sont toujours trouvés dans les moments graves de leur histoire. Mais ça n'empêche pas les anicroches et même parfois les coups dans le dos. L'Info C'est clair est intitulé France-États-Unis, les frères d'armes. Nos invités, Étienne Lénard, vous êtes chef du service politique étrangère de France Télévisions et vous avez été correspondant à Washington. Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Dominique Simonet, vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis, co-auteur avec Nicole Bacharan des Grands Jours qui ont changé l'Amérique, qui est désormais disponible en poche. Merci de participer à cette émission en direct. On revient sur, cette allocution de Emmanuel Macron, c'était hier avec Joe Biden, où Emmanuel Macron donc a qualifié de frère d'armes la relation entre la France et les États-Unis. On l'écoute.
Face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir. Car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès par les sciences et le savoir.
Étienne Lénard, Emmanuel Macron a aussi évoqué en anglais Lafayette, 200 ans d'amitié sans jamais une guerre entre nos deux pays. On en joue, on en surjoue. Vous qui étiez correspondant à Washington, je crois qu'en face de la Maison-Blanche, il y a le square Lafayette. Hein.
Oui, le square Lafayette. Lafayette est beaucoup plus connu aux États-Unis que n'importe quel homme politique, homme d'État, président ou pas. Non, on a vu pendant deux jours, entre Joe Biden et Emmanuel Macron, entre la France et les États-Unis, une sorte de retrouvailles amicales, enjouées. Vous notez que le président de la République dit « redevenir des frères d'armes ». Oui. Il n'a pas dit rester des frères d'armes. Ouais. Voilà. Donc, sous-entendu.
C'était la parenthèse Trump.
C'était la parenthèse Trump. C'était aussi les quelques épisodes désagréables du début de la présidence Biden avec l'histoire des sous-marins australiens, probablement.
Le coup dans le dos.
Voilà. Et puis, c'était aussi un moyen de dire aux États-Unis, nous avons, par rapport à cette guerre en Ukraine, des difficultés que vous, aux États-Unis, vous n'avez pas forcément. Essayons de travailler ensemble. Synchronisons. Ça a été l'autre grand mot de ce voyage. Synchronisons nos agendas. De façon à ce que l'Europe puisse aussi passer ce cap de la guerre en Ukraine avec l'aide des États-Unis et pas contre les États-Unis. Et là, on y reviendra. Il évoquait probablement la guerre commerciale et le protectionnisme américain.
On va en parler. Mais Anthony Bélanger, est-ce qu'elle est surjouée, cette amitié, ou est-ce qu'elle est quand même réelle? C'est ce matin ce diplomate américain qui, dans le Figaro, dit « Rien de tel qu'une menace grave pour unir les Américains et les Européens ».
Les Européens, oui. Les Français, c'est un peu plus compliqué. C'est de la calinothérapie qui est allé chercher, grosso modo, qui est allé faire Joe Biden, qu'a voulu faire Joe Biden à l'intention d'Emmanuel Macron. Qui est le premier chef d'État reçu de la présidence Biden en visite d'État, qui l'a été d'ailleurs déjà en 2018 par Donald Trump. C'est un peu comme si on avait toujours besoin, les Américains avaient toujours besoin de rassurer les Français sur le.
On vous aime,
je vous assure qu'on vous aime. Joe Biden, c'est un partenaire coriace pour la France. D'une certaine façon, Donald Trump, c'était plus simple. Donald Trump était universellement détesté, en tout cas du côté vu européen. On se souvient de ces photos absolument incroyables de son opposition avec Angela Merkel. Et donc, il y avait une place pour la France à ce moment-là, qui jouait un peu les troubles faits ou qui jouait un peu les troublions, qui pouvait dire, c'est peut-être le moment de penser aux défenses européennes, c'est peut-être le moment de penser indépendance stratégique, c'est peut-être le moment de revoir notre stratégie. Joe Biden, c'est un vieux monsieur qui a connu la guerre froide, qui est solide sur ses appuis quand il s'agit de parler aux Russes, qui sait remobiliser une alliance atlantique, qui a su s'engager derrière l'Ukraine. Et du coup, cette espèce d'entre-deux que la France voulait vendre, elle le vend moins facilement en ce moment.
Mais Dominique Simonet, quand même, sur cette visite d'État, ça n'est pas rien, il paraît, une visite d'État. Hein. C'est la visite le plus haut grade de visite. Il y a toujours un peu de la fascination pour nos chefs d'État français qui se retrouve à Washington. On va voir des images là, de la Maison Blanche, qui en ce moment est aux couleurs de Noël. Ça, on a un peu l'impression d'être à Disneyland, et on a un peu, il y a un côté très clinquant, mais qui nous fascine. Il y a, et c'est ce soft power américain, probablement que le couple Macron était un peu enchanté, comme des enfants, et émerveillé de se retrouver avec le reçu par le président des États-Unis d'Amérique.
Oui, c'est toujours un peu impressionnant. C'est vrai que c'est un peu le grand frère et que le faste de la Maison Blanche, des dîners d'État, fait un peu rêver. Mais c'est un symbole aussi, un dîner d'État. On a vu qu'il va, on en parlera tout à l'heure sur le plan économique et quand même le point d'achoppement. Il n'y a pas eu grand chose d'obtenu de la part d'Emmanuel Macron, mais le principal, c'est le symbole dont on parlait. Et là, moi je trouve que il faut pas le mépriser, le symbole. C'est vraiment important. Vous parliez de l'histoire, 250 ans d'histoire commune, sans guerre ou à part la quasi-guerre, mais peu de choses. Et puis cette poignée de main, ce mot de frère d'armes. Moi je trouve ça important de réaffirmer les valeurs démocratiques, de réaffirmer des choses essentielles comme la liberté. Ça parle aux deux peuples, aux Américains, aux Français. Ça parle aussi aux Ukrainiens qui subissent les atrocités de Vladimir Poutine en ce moment. Ça parle aux femmes iraniennes et aux Iraniens qui se battent dans les rues et qui prononcent le mot de liberté au risque d'en mourir. Ça parle aux Chinois qui brandissent des feuilles blanches dans les rues. C'est pas rien d'affirmer ça. Et donc on aurait tort de considérer ça comme quelques agitations ou quelques postures dans une planète aujourd'hui qui est en grand danger. Il y a le climat, mais il y a aussi des menaces géopolitiques un peu partout. Je pense que c'est fondamental et aussi
avoir la réassurance
de le réassurer et aussi pour les jeunes générations qui peuvent voir ça et pour qui les acquis démocratiques sont considérés comme évidents. Et non, c'est quelque chose qu'il faut toujours remettre sur le chantier. Et la démocratie, c'est compliqué.
L'Amérique en est le garant. Et on est bien content de les avoir en garantie d'ultime ressort, hein, Étienne Lénard.
C'est un bon coup diplomatique pour le président de la République. Honnêtement, deux voyages, deux dîners d'État en deux mandatures, un avec Trump, un avec Biden. Il n'y a pas beaucoup de présidents à l'international qui peuvent se targuer de ça. On a toujours tendance en France un petit peu à moquer ce genre de choses. Mais c'est un bon coup diplomatique. Et pourquoi lui, en fait? On dit que c'est une réparation pour l'histoire des sous-marins australiens. Mais pas seulement. Quand vous regardez depuis Washington, à qui parler en Europe?
Et voilà.
Quand vous regardez qui se bouge sur l'Ukraine, avec des succès, avec des échecs, mais qui se bouge sur l'Ukraine, qui est présent dans l'Indo-Pacifique, qui sont les deux vraiment repères des États-Unis sur le plan militaire. Et puis qui a l'expérience européenne d'entraîner les autres? Angela Merkel n'est plus là, les Britanniques ne sont plus là. Le président Macron, il est là depuis 6 ans, il connaît les dossiers. Je pense que ce n'est pas uniquement pour faire une fleur à la France, c'est aussi parce qu'il est, entre guillemets, l'homme de la situation en ce moment, à un moment donné, pour les Américains. Les Américains ne font jamais rien gratuitement, hein. Donc ça, c'est par intérêt aussi.
Alors, Anthony Bélanger, on va voir les images d'ailleurs d'Emmanuel Macron et Joe Biden. Il y a toujours ce jeu un peu tactile de prendre l'autre en dessous de son épaule comme si on voulait...
Oui, c'est une chose qu'Emmanuel Macron aime beaucoup, ça, l'espèce de relation personnelle qui vaut relation diplomatique. Il faut faire attention à ça, avec ça, parce que on peut se laisser entraîner souvent, on peut se faire c'est susceptible de vexation, en fait. Mais bon, ce qui est intéressant, ce qu'il dit Étienne Hénard...
Il était là, pas en tant que président de la France, mais représentant du continent européen.
Alors, un peu par défaut. C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que Angela Merkel n'est plus là et que les Britanniques sont absents. Sauf que dans les faits, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est quand même les Britanniques qui sont les deuxièmes fournisseurs d'aide à l'Ukraine, loin devant la France. Que c'est quand même les Britanniques qui sont les alliés spéciaux des Américains dans l'Indo-Pacifique, en junior partner, hein, c'est-à-dire en partenaire, mais qui quand même ont signé le fameux contrat AUKUS qui permet à l'Australie, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne d'avoir une alliance militaro-politique dans le Pacifique. Et que les Français ont été très maltraités à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, comme vous, que c'est un bon coup politique, c'est un bon coup diplomatique, mais ça ne fait pas oublier le fait quand même que les États-Unis, quand il s'agit de s'appuyer sur un partenaire européen, ont plutôt tendance à regarder du côté de Londres, et parce que tout simplement, Londres donne... des gages concrets, pragmatiques. Je rappelle que quand même la France est la 8e nation en Europe à soutenir l'Ukraine. que la première, ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'Allemagne d'une part, mais surtout la Grande-Bretagne d'autre part.
Alors, il y avait deux dossiers, outre la réassurance démocratique, il y avait deux dossiers sur la table, la guerre en Ukraine, mais surtout le dossier économique. Et dossier économique, là, il y a une vraie anicroche parce que les Américains subventionnent notamment leur industrie automobile. Les Américains ont des subventions s'ils achètent des voitures fabriquées en Amérique du Nord, mais pas les voitures européennes. Du coup, les Européens crient à la concurrence déloyale. Les explications de ce traitement américain avec Luc Bazizin.
La voiture électrique au centre d'un bras de fer entre les États-Unis et le reste du monde. D'un côté, les Américains favorisent les véhicules produits chez eux à coup de subventions en dollars. De l'autre, les Européens soutiennent toutes les voitures propres sans distinction de pays d'origine. Au cœur de cette bataille, Joe Biden et le protectionnisme américain, enjeu de pouvoir, la bataille de l'électrique. À Détroit, capitale américaine de l'automobile en septembre, Joe Biden s'affiche fièrement au salon de l'auto, au volant de modèles électriques. Et pour cause, un mois plus tôt, en août, il a signé une loi officiellement pour réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre.
Avec cette loi, le futur de l'Amérique est brillant et la promesse de l'Amérique est réelle et commence tout juste.
Derrière cette annonce se cache une autre ambition inscrite dans la loi, celle de favoriser l'achat de véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord avec des batteries fabriquées dans des pays partenaires des États-Unis. Concrètement, les Américains perçoivent jusqu'à 7 500 $ de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule électrique produit chez eux. À titre de comparaison, en France, c'est 7 000 € pour toute voiture, quel que soit son pays d'origine. De quoi agacer l'Europe.
Voilà. Alors, l'avancée de cette nuit, c'est qu'apparemment, ces aides réservées aux voitures fabriquées en Amérique du Nord pourraient être étendues aux voitures fabriquées en Europe. En tous les cas, Joe Biden a déclaré hier, il y a de petites erreurs à corriger pour faciliter la tâche aux pays européens de façon à ce qu'ils ne soient pas isolés. Et ce matin, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était l'invité des 4V, l'invité de Thomas Soto. Il est allé dans le même sens et il a assuré que les Américains, les Européens ne seraient pas exclus de ces subventions. On l'écoute.
Nous sommes d'accord sur l'idée qu'il faut le faire en faisant en sorte que, oui, des emplois ici, mais des emplois en Europe. Des emplois ici, mais pas aux dépens de ce qui se passe en Europe. Et justement, les deux présidents se sont mis d'accord pour qu'on fasse un travail avec l'Union européenne pour bien synchroniser nos approches.
Donc Dominique Simonet, si on comprend, les voitures fabriquées en Europe seraient éligibles à la prime qu'accorde Washington aux voitures américaines. Encore faudrait-il que ça passe au Congrès. Tout ça, ce sont souvent des promesses.
Voilà, c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a quand même une loi qui a été votée. Et puis, il y a un Congrès qui va changer.
Qui est républicain maintenant.
Qui va changer le 20 janvier. Enfin, le Sénat reste démocrate. Mais le 20 janvier, on aura une chambre
des représentants.
À petite majorité républicaine. Mais bon, ça fait sans doute partie des exemptions que l'Élysée voulait faire passer. En tout cas comme message auprès de Joe Biden. Il faut quand même dire une chose, c'est que bon, c'est énorme, hein, 369 milliards de dollars, c'est considérable. Mais c'est un plan pour le climat. C'est bien la première fois que les États-Unis prennent une telle initiative. Donc c'est difficile de leur reprocher. Ce qu'on leur reproche, c'est de favoriser, de restreindre le marché de ces voitures, notamment au marché américain. Il y a aussi 60 milliards, je crois, d'aides directement pour les entreprises. Et là, c'est plus préoccupant parce que ça peut faire un appel d'air pour les entreprises européennes qui vont, et d'ailleurs certaines d'entre elles ont déjà déclaré qu'elle serait intéressée pour aller s'installer aux États-Unis.
On a Safran, par exemple, qui, alléché par ses aides américaines et le coût bas de l'énergie, vient de mettre sur pause son usine, sa nouvelle usine à Lyon, et dit je vais plutôt favoriser ma production dans mon usine américaine.
Voilà, et donc la réponse à cela, et beaucoup d'économistes le disent, c'est que c'est difficile ça va être difficile de changer. En tout cas, de manière importante, la loi américaine. Joe Biden ne le veut pas. Il a dit « je ne veux pas m'excuser pour, pour cette loi, et on ne voit pas pourquoi il le ferait d'ailleurs. Ouais. En revanche, la vraie réponse, c'est l'Europe. C'est vraiment, voilà. c'est Emmanuel Macron rentre en Europe et c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire, nous aussi, prenons des mesures importantes, lançons un grand plan européen, essayons de répondre à ce défi, ce nouveau défi américain.
Anthony Bélanger, c'est vrai que les Américains aident leur entreprise à coût de 360 milliards de dollars. Nous, en France, on les aide avec 10 milliards. Donc on dit, si la concurrence est loyale, parce qu'évidemment, du coup, tout le monde a envie d'aller récupérer ces subventions américaines.
Alors, on oublie que l'Union européenne s'est endettée à hauteur de 750 milliards, il n'y a pas si longtemps que ça, pour aider, dans le cadre du plan Covid, l'ensemble des industries et de l'économie de la moitié des pays d'Europe. L'Italie, par exemple, doit encore récupérer 150 milliards de dollars.
Donc tout le monde aide ses entreprises.
Tout le monde aide ses entreprises, d'une part. Et d'autre part, si on est si choqué par les 369 milliards de dollars du plan d'aide américain, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place, nous, les outils nécessaires pour aider nos entreprises à la hauteur de ce plan américain. On ne peut pas reprocher aux Américains, un, de protéger leurs emplois, deux, d'essayer de mettre beaucoup d'argent dans la transition énergétique, trois, de subventionner leurs propres entreprises. Et pourquoi pas d'ailleurs, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Si en face, on a effectivement ce que disait M. Simonet, il a raison, des politiques européennes capables de s'aligner, ou du moins de faire aussi bien, ou du moins de pouvoir proposer aux entreprises européennes un plan cohérent qui leur permette de faire ce saut.
Étienne Lénard, sur la forme maintenant, en fond, c'est une guerre entre l'Union européenne et les États-Unis. Pourquoi c'est Emmanuel Macron? Est-ce qu'au fond, il ne fait pas une mauvaise manière à la Commission européenne, à Margaret Vestager, dont c'est le dossier. On a l'impression qu'il parle au nom de l'Europe. C'était le président de l'Europe à Washington.
C'était en tout cas l'interlocuteur américain venu de l'Union européenne. Et à ce titre-là, le président de la République va pouvoir rentrer en Europe en disant « Moi, j'ai passé 3 heures en tête-à-tête
j'ai réglé le problème.
Avec le président Biden. » Et je vous dis qu'il ne changera pas de position. Et de toute façon, le président de la République le savait avant. Hein, ce plan, c'est la pierre angulaire du bilan de Joe Biden de ses 4 ans de présidence. Il ne va pas y toucher directement. Donc on verra quelle forme prennent les promesses.
Vous ne croyez pas trop à cette main tendue vers les Européens ?
Il ne peut pas. Et d'ailleurs, au Congrès, immédiatement après cette déclaration, les élus qui ont travaillé sur ce plan ont dit « mais on ne touchera pas une ligne de ce plan ».
Donc,
il va falloir trouver d'autres formes.
Le Canada et le Mexique peuvent bénéficier de ce plan, mais il ne l'étendra pas.
Ils ont des accords de libre-échange avec les États-Unis. C'est des voisins. Ça sera fait différemment. Mais ce que va dire le président de la République aux Européens, et notamment aux Allemands, c'est si vous mettez d'un côté, vous, 200 milliards sur la table pour défendre votre économie et qu'on ne travaille pas ensemble, on ne va jamais y arriver. Il y a la puissance américaine, il y a la puissance chinoise. Faisons en sorte qu'il y ait une puissance européenne. Et c'est ça l'enjeu du débat.
C'est vrai
qu'en Europe, on a beaucoup plus de mal à travailler peut-être ensemble. Dès qu'on chacun défend un petit peu son bout de gras au niveau de ses frontières.
Et il y a un enjeu, c'est qu'en ce moment les entreprises donc font un peu sont moins allantes pour aller s'installer en Chine et donc elles se disent alors où est-ce qu'on va produire? Est-ce qu'on va produire plutôt en Europe, plutôt aux États-Unis? Et l'énergie, les subventions sont plutôt aux États-Unis en ce moment.
Et en matière d'économie, l'Europe, c'est l'Allemagne. C'est quand même le pays le plus important. Et donc la politique économique allemande prévaut sur d'autres politiques économiques ou d'autres sujets économiques en Europe. Or, c'est quoi le modèle allemand? Le modèle allemand, c'est un modèle d'exportation. Un modèle qui se nourrit parfaitement, qui aime le libre-échange et qui aime les relations bilatérales ou trilatérales avec les pays. On l'a bien vu avec M. Scholz, qui a été le premier leader européen à être reçu en Chine.
Parce
que le marché chinois est essentiel pour les produits allemands. Donc c'est compliqué à la fois d'expliquer aux Allemands qu'il faudrait être plus solidaire avec le reste de l'Europe, ce qui contrevient à leur propre modèle économique qui vise à exporter dans le reste du monde. Le premier partenaire économique de l'Allemagne, ça reste quand même, individuellement en tout cas, ça reste quand même la Chine. Et puis ensuite les États-Unis, puis après la France éventuellement.
Alors, autre dossier sur lequel, pour le coup, nos positions sont plus synchronisées, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est le dossier en Ukraine. Les deux pays, France et États-Unis, sont d'accord pour soutenir Volodymyr Zelensky. Je vous propose d'écouter Anthony Blinken, secrétaire d'État, qui, toujours au 4V, a expliqué que l'objectif, c'était surtout de contenir ce conflit et qu'il ne s'étende pas, avec l'objectif d'éviter à tout prix une troisième guerre mondiale. On réécoute Anthony Blinken parlant de l'Ukraine.
Pour le président Biden, c'est essentiel qu'on évite d'élargir le conflit. Au contraire, on veut en conclure. Mais surtout ne pas l'élargir. On ne veut pas de guerre avec la Russie. On ne veut pas, surtout pas de troisième guerre mondiale. Ce n'est pas du tout ce que l'on cherche. Par contre, ce qu'il faut, c'est pour qu'il y ait une paix, il faut que ce soit non seulement sur le papier la paix, mais il faut que ce soit juste, et donc avec les principes du charte de l'ONU. Et il faut que ce soit durable, parce que, dans un sens, pas la peine de faire une fausse paix qui sera rejetée très rapidement et la Russie repart en guerre. Ce qu'il faut éviter, par exemple, c'est l'idée qu'on gèle les choses en place. La Russie, dans ce contexte, ne va jamais négocier les territoires qu'ils ont pris par la force.
C'est quoi on doit revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant le 24 février ou même la Crimée?
C'est la décision de l'Ukraine. D'accord. Nous ne faisons pas de décision pour l'Ukraine. Nous allons soutenir les décisions de l'Ukraine.
Alors Dominique Simonet, là, on a un scoop. Hein. C'est qu'on va laisser Volodymyr Zelensky récupérer l'Ukraine. Ça nous annonce des batailles sanglantes.
La Crimée, enfin, pardon.
La Crimée. La Crimée, c'est effectivement le cœur du... La Crimée, elle se trouve entre les deux positions, d'une certaine manière, entre l'affirmation des États-Unis et l'administration américaine depuis le début, c'est qu'il faut que Vladimir Poutine perde et sorte de la Russie, et on ne parlera pas de la Russie, de l'Ukraine, pardon, et on ne parlera pas avec lui tant qu'il n'aura pas arrêté son agression. On voit que la position française, on le sait, et plus, essayons de discuter, de provoquer peut-être des négociations et d'arrêter cette guerre. Simplement, c'est vrai que il y a les Ukrainiens au milieu. Et le fait de réaffirmer que l'Ukraine est souveraine et doit avoir la main pour cette décision, je pense que c'est fondamental. J'ai l'impression que c'est ce que Anthony Blinken voulait dire. Ça, en fait, c'est deux temps différents. Je ne pense pas que les positions soient très opposées. Simplement, l'une actuelle, et d'ailleurs Emmanuel Macron le dit, c'est il faut affirmer cette fermeté, affirmer cette alliance. Et là, pour l'instant,
elle est affirmée.
Elle est affirmée. Dans un deuxième temps, là, peut-être que Joe Biden a laissé une ouverture. Peut-être qu'il pourrait parler, lui aussi, à Vladimir Poutine s'il avait des preuves concrètes que la guerre peut s'arrêter.
Oui, ça, c'est ce qu'il a dit. Mais Étienne Lénard, on avait cru comprendre que les Américains n'étaient pas très chauds à l'idée que les Ukrainiens poussent leur avantage jusqu'à récupérer la Crimée. Les Américains avaient peur que ça dégénère. On s'est trompé en écoutant.
Ils ne sont pas les seuls. Je pense qu'Anthony Blinken fait une déclaration qui est une déclaration politique. Il sait pertinemment qu'on est encore bien loin de la capacité pour les Ukrainiens d'arriver aux portes de la Crimée, hein, même si ça ne se compte pas en kilomètres. Mais sur le terrain, les choses avancent extrêmement lentement et on le sait, on rentre dans l'hiver. Il y a toujours cette inquiétude que les Ukrainiens poussant vers la Crimée, qui est véritablement la ligne rouge pour le pouvoir de Moscou, pour Vladimir Poutine, on rentre dans une escalade qui se termine extrêmement mal. Et les Américains le savent pertinemment. Les diplomates français auxquels on parle régulièrement, il y a quelques semaines, disaient « c'est vraiment ce que l'on dit aux Ukrainiens, attention, attention avec la Crimée ». Engagé dans ce momentum, Volodymyr Zelensky, évidemment, vis-à-vis de son peuple, dit « nous irons jusqu'au bout », mais les Américains et les Européens ont aussi les moyens de ralentir.
En coupant le robinet des armes ?
En coupant le robinet de certaines armes, éventuellement, ce qui pourrait diplomatiquement être compliqué. Mais il y a véritablement sur la Crimée cette impression que c'est véritablement le chiffon rouge qu'il ne faut pas agiter devant Vladimir Poutine. Le président de la République dit régulièrement « je vais parler à Vladimir Poutine ». Il ne lui a pas parlé officiellement, en tout cas, depuis le 11 septembre. Est-ce qu'il peut encore le prendre au téléphone ? Je ne sais pas. On verra dans les semaines qui viennent. Il l'a redit à Washington. Mais véritablement, cette histoire de la Crimée, je me méfie des déclarations comme ça de bonnes intentions. Ne pas Voyons trop, quand même ne dans pas les semaines et les mois qui viennent. Voilà.
Alors, Anthony Bélanger, est-ce que, vous voyez, on ausculte, on fait l'exégèse des propos d'Anthony Blinken, ça veut dire que cette guerre qui est au cœur de l'Europe, comme pour la guerre en Yougoslavie, c'est à Washington c'est depuis Washington qu'elle est pilotée. Ce sont les Américains qui sont à la manœuvre de cette guerre européenne.
C'est la vérité des chiffres. Hein. Les Américains ont donné à l'Ukraine, en termes d'aide militaire et d'aide humanitaire, 20 fois plus que le pays qui vient derrière, qui est le Royaume-Uni. Donc voilà. Ensuite, l'Alliance Atlantique, quand elle est mobilisée militairement, on voit bien qui a les armes, qui a les munitions, qui a les stocks et qui a l'avantage stratégique. On l'a noté même depuis le 24 février, c'était les Américains qui ont eu raison sur l'ensemble des Européens et des gens extrêmement prudents qui vous disaient que dont moi d'ailleurs,
qui vous expliquent. Bon, la plupart des experts
n'interviendraient pas, parce que c'est vrai que d'un point de vue, ben oui, non, mais je le dis absolument sincèrement, parce que on est tous
jamais.
Et d'un point de vue coût-bénéfice, on voyait pas très bien en quoi, de quelle façon la Russie se s'en tirerait. Juste une petite remarque. En fait, il y a une chose qui a tout changé quand même récemment. C'est la semi-victoire de Joe Biden aux élections de mi-mandat. C'est la première fois en 20 ans qu'un président américain, qui en plus est en guerre et qui en plus s'engage dans une guerre, remporte des élections de mi-mandat. Il a fait mieux que Biden, que Obama, mieux que Trump sur ce sujet. Donc si cette espèce de divine surprise a changé complètement la psychologie du président américain, qui a pu se sentir parfaitement et légitimement renforcé, d'une part auprès de ses alliés et d'autre part auprès de ses propres troupes, par cette victoire que personne ne prédisait, cette semi-victoire que personne ne prédisait. Cette non-défaite que personne ne prédisait. On prédisait l'inverse, une déculottée magistrale pour le Parti démocrate. Ce qui montre bien, et donc depuis, je pense qu'il faut écouter avec un tout petit peu plus d'attention et un tout petit peu plus de sérieux, dans le sens où, quand les Américains vous disent « on laissera aux Ukrainiens le cas de choisir, on continuera à les aider et on ne parle pas de Crimée pour l'instant », il y a deux raisons. La première, c'est que, comme tout bon stratège ou géostratège qui se respecte, qui en plus est impliqué dans une guerre, eh bien, ils ne disent pas leur stratégie. Il laisse une espèce de flou stratégique qui permet à tout le monde d'interpréter comme nous le faisons ici. Et la deuxième raison, c'est que pour l'instant, ils ont été jusqu'à présent extrêmement surpris, dans le bon sens du terme, par les capacités de l'armée ukrainienne. Donc il n'y a aucune raison pour l'instant de préjuger ce qui pourrait se passer dans l'avenir.
Mais puisqu'on parle, Étienne Hénard, puisqu'on parle d'États-Unis et de France, frères d'armes, je reprends cette phrase du diplomate américain. Rien de tel qu'une menace grave pour unir les Américains et les Européens. Oui, cette guerre en Ukraine, elle nous a rapprochés des États-Unis et on s'est à nouveau mis sous l'aile et le parapluie chaud et réconfortant de Washington.
Pas tous, parce que le président de la République continue à parler de sa volonté de développer une Europe de la défense, et que on sait que cette autonomie stratégique, elle a beaucoup agacé les Américains à certains moments dans l'histoire récente. Le fait est qu'en Europe, vous avez des pays comme la France qui souhaitent développer une Europe de la défense, et puis vous en avez d'autres qui disent: notre assurance, notre principale assurance, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine depuis la Pologne ou depuis les pays baltes, c'est l'OTAN, et donc c'est les Américains. Et on en est là. À la faveur de cette guerre, les budgets de défense au niveau national de tous les pays comme la France, comme l'Allemagne, ont considérablement augmenté. Les Américains sont ravis de ça. Donald Trump le demandait avant le président Biden quand il était à la Maison-Blanche. Est-ce que, à partir de ça, l'Europe va pouvoir développer une Europe de la défense cohérente? J'en doute, parce qu'il y a des priorités. Et la priorité, pour l'instant, c'est de faire rentrer Vladimir Poutine à Moscou. Et ça, il n'y a que sous le parapluie de l'OTAN que c'est possible de le faire.
Dominique Simonet, on disait aussi doctement que les États-Unis voulaient se détourner de l'Europe, et que la grande affaire du XXIe siècle pour les Américains, c'était l'Asie, la Chine, etc. Est-ce qu'on n'a pas à la Maison-Blanche, finalement, une des troupes très européennes? Et c'est vrai qu'on est tous frappés, d'ailleurs, par le français impeccable de Anthony Blinken.
Ah bah oui, mais Anthony Blinken, c'est un personnage intéressant, parce qu'effectivement, il a deux pays, d'ailleurs, c'est la France et les États-Unis.
Ah, il a dit que pour le mondial de foot, il soutient les États-Unis, mais quand ils seront éliminés, il soutiendra les Bleus.
Bon. Il a fait ses études à l'école bilingue, je crois, et il a une... À Paris, oui. Il a ensuite fait toute une carrière où il était associé au Conseil de sécurité, où il a fait une carrière de diplomate extrêmement brillante. Et c'est un atout d'avoir un secrétaire d'État comme ça qui parle français, parce que déjà les relations sont plus simples. On voit l'interview de ce matin, les choses sont plus claires qu'avec une traduction. Et surtout, il connaît bien l'esprit français. Mais sur la vision que peuvent avoir les États-Unis de l'Ukraine, elle, comme le disait Anthony tout à l'heure, elle doit se mettre dans ce contexte des midterms et du changement politique, parce qu'il va y avoir encore un train d'aide là, qui doit être... Il y a 38 milliards de dollars qui doivent être décidés par Joe Biden. Ils veulent faire très très vite avant le changement. Donc il y a une réaffirmation de la politique. Ça fera 100 milliards au total quand même, d'investissement.
Mais pour revenir sur cette proximité culturelle dont on parlait à l'instant et ce lien transatlantique, Étienne Hénard, on parle beaucoup du soft power américain qui nous fascinerait avec ses paillettes, avec Hollywood et Disney. Est-ce que pour les Américains aussi, l'Europe a un certain charme et Anthony Blinken, il a des paillettes dans les yeux quand il pense aux rues de Paris, à la baguette et au béret.
Oui,
il y a un romantisme européen.
Il y a une image d'Épinal, et quand vous habitez Washington, d'ailleurs, il y a un certain nombre de restaurants français et de boulangeries françaises. Le président a encore secoué une baguette à l'ambassade de France en disant voilà ce qui est notre patrimoine, puisque vous le savez, la baguette a été érigée au
patrimoine de l'humanité, immatériel.
De l'UNESCO. Après, il faut relativiser quand même les Américains. Quand vous allez dans Deep America, les Américains, la France, si peut-être je viens voir la Tour Eiffel. Mais il faut relativiser. En même temps, regardez le cadeau qu'a amené le président de la République au couple Biden. C'est une version originale de la musique de Un jour et une femme, le film de Claude Lelouch. Claude Lelouch qui accompagne d'ailleurs le président. Parce que quoi ? Eh bien parce que le jour où Jill Biden et Joe Biden se sont rencontrés, ils sont allés au cinéma et ils sont allés voir Un jour et une femme.
Voilà. Alors vous parliez de cette fameuse scène où Emmanuel Macron a brandit la baguette française à Washington, ben, cadeau, on la regarde.
Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. Mais non. Non, mais la baguette représente ça.
Emmanuel Macron capable aussi de s'exprimer en anglais, contrairement à certains de ses prédécesseurs. On l'écoute.
He came here indeed to fight. He fought for these principles and to have people here living in democracy and freedom. And this is the same thing in my country.
Anthony Bélanger, on disait que ça aide d'avoir un Anthony Blinken qui parle français. Ça aide aussi d'avoir un Emmanuel Macron qui parle en anglais et qui peut s'exprimer sans traducteur, contrairement à... On se souvient de Nicolas Sarkozy, c'est pas lui qui avait dit « sorry for the time ».«
For the time, for the weather », au lieu de « weather ». Bien sûr que ça aide, bien sûr. Les journaux américains l'ont remarqué tout de suite. Alors, il a un épouvantable accent, mais on ne le reproche jamais aux Français.
On ne reproche jamais aux Français leur accent.
Leur accent, jamais à personne leur accent aux États-Unis.
Ça fait un peu de glamour, mais
voilà, c'est un peu glamorous, donc tout va bien. En plus, franchement, il a un anglais tout à fait... Tout à fait respectable, il n'y a aucun souci. Je veux dire, c'est cette espèce de facilité à passer d'une langue à l'autre. Il a répondu déjà à des interviews en anglais, on le voit bien. Quelquefois, c'est un peu approximatif. Écoutez, il n'y a vraiment rien à dire sur ce sujet. Et c'est vraiment un saut qualitatif par rapport aux autres. Et c'est vrai que pour Anthony Blinken, si vous voulez, il n'y a rien de ce qui est français n'est étranger à Anthony Blinken. Donc on ne la lui fait pas, ni sur la baguette, ni sur le reste. Donc pour lui, Paris, c'est une seconde patrie, d'une certaine manière. Les Américains sont toujours un peu moqués de la façon dont nous parlions, dont nos chefs d'État ou nos diplomates parlaient français, parlaient anglais.
Giscard parlait très bien.
Oui, Jacques voilà, Chirac, et c'est pas la première fois.
Jacques Chirac.
Jacques
Chirac a répondu en anglais à des interviews.
La catastrophe, c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et c'est pas bon ça dans les échanges quand on est obligé de passer par les traducteurs, on perd en qualité, en spontanéité.
Souvent, on ne prend pas le risque sur des dossiers assez sensibles de dire un mot à la place d'un autre. Et c'est bien le problème. Dans une rencontre ou dans une conférence de presse, vous n'allez pas prendre le risque de dire un mot à la place d'un autre parce qu'immédiatement, ça va être interprété d'une manière ou d'une autre.
Donc, on parle dans sa propre langue, on maîtrise à 100%.
Exactement. On négocie dans sa propre langue systématiquement, quel que soit votre niveau dans une langue étrangère. C'est, bien sûr, on badine en anglais ou en espagnol, dans la langue que vous savez.
Et dans les réunions européennes, maintenant, tout se fait en anglais, non ?
Ben voilà, ce qui est fascinant, c'est que la Grande-Bretagne est partie. Il n'y reste plus que la petite Irlande pour parler l'anglais, mais que finalement...
Ils ont laissé leur langue,
qui est la langue, objectivement, de la langue de travail et de la diplomatie aujourd'hui. Donc, on va pas faire les malins non plus à essayer d'imposer le français. L'anglais reste la langue de travail de l'Union européenne. C'est très, très paradoxal.
Alors, on parlait de Jacques Chirac ou de Valéry Giscard d'Estaing parlant anglais. Ben justement, je vous propose de revisiter l'histoire de la Ve République au travers de la relation France-Amérique. C'est un sujet de Camille Gutin, Alice Sangouard et Thomas Danzel.
Invité de prestige, menu 3 étoiles et robe de soirée, le tout dans le faste de la Maison Blanche. Le dîner d'État, c'est peut-être le moment le plus symbolique de la relation franco-américaine. 70 ans d'amitié, mais aussi de différends et de tensions entre deux très anciens alliés. En 1960 déjà, c'est acclamé par la foule dans sa limousine que le général de Gaulle se présente à Eisenhower. 10 ans plus tard, c'est au tour du président Pompidou de rappeler l'histoire qui lie la France aux États-Unis.
Depuis votre indépendance, nous avons été amis dans la paix, alliés dans la guerre.
Sous Valéry Giscard d'Estaing, le voyage d'État prend des allures de démonstration technologique.
3h55, moins de 4 heures de voyage.
Le président fait le voyage à bord du Concorde et plein d'audace, il choisit de faire son discours directement en anglais.
And now, if you allow me,
et maintenant, si vous me le permettez,
I will be my
je serai mon propre interprète.
Car à chaque duo, sa complicité. Entre François Mitterrand et Ronald Reagan, la compréhension est immédiate. En 1996, fou rire partagé entre Jacques Chirac et Bill Clinton, après une boutade lancée par le président français sur Attila le Hun.
Ouais, c'était drôle.
François Hollande, lui, n'hésite pas à lancer quelques traits d'humour à un Barack Obama détendu lors du dîner d'État.
Vous aimez la France. Vous ne le dites pas toujours. Parce que vous êtes timides, les Américains. Vous vous retenez.
Mais comme dans toute relation, il y a parfois des frictions. En 2002, passe d'armes glaciales entre Jacques Chirac et George Bush Jr. sur la question de l'Afghanistan.
L'action militaire est indispensable, mais elle n'est pas la seule.
Les nations engagées contre le terrorisme doivent nous aider. Le temps est à l'action.
Nicolas Sarkozy, surnommé l'Américain, n'arrivera jamais, malgré de bonnes relations, à briser complètement la glace avec Barack Obama. Emmanuel Macron, lui, devra gérer le caractériel Donald Trump.
Le paradoxe, c'était Nicolas Sarkozy, qu'on appelait l'Américain, qui semble lui avoir le plus de mal à se mettre dans les souliers, à être à l'aise aux États-Unis.
Oui, c'est étonnant. Ce que retient l'histoire des présidents dans la relation franco-américaine était toujours étonnant. De Gaulle, par exemple, n'était pas franchement pro-américain. En revanche, Mitterrand l'était beaucoup plus, alors que Mitterrand était un président socialiste. Et on se souvient des rencontres, en tout cas des collaborations entre Mitterrand et Reagan, qui ont été assez extraordinaires. Mais ça joue beaucoup, en fait. Moi, je crois que ça joue quand même beaucoup la personnalité. On parlait de l'anglais tout à l'heure. Il n'y a pas évidemment que ça, mais la personnalité et la manière d'être à l'aise dans une relation entre ces deux pays joue un rôle. Ce qui se passe dans un dîner privé, par exemple, ça peut aussi préparer un certain nombre de mesures qui seront ensuite discutées par les délégations. Mais c'est vrai que là, Emmanuel Macron est très à l'aise. Visiblement, ça passe bien avec Joe Biden. Le courant passe bien. Les First Ladies s'entendent apparemment très, très bien. Brigitte Macron dit qu'elle est comme une sœur avec Jill Biden. Donc, voilà, ça rajoute un
Biden
petit peu.
Biden a dit mon ami, c'est mon ami, en parlant d'Emmanuel Macron.
C'est pas de la politique, c'est pas là où ça se passe, mais malgré tout, ça met un petit peu d'huile dans les rouages et c'est important.
Anthony Bélanger, est-ce que on a, comme on le disait tout à l'heure, une Grande-Bretagne qui est sortie de l'Union européenne, une Allemagne qui s'est un peu discréditée en disant mais nous, nos amis, ce sont les Chinois et les Russes, et le commerce adoucit les mœurs. Finalement, dans ce champ de ruines, il ne reste plus que la Tour Eiffel.
J'ai du mal à vous répondre oui parce que je pense malgré tout
c'est que, pas nous qui que, montons, c'est les autres qui baissent.
D'abord d'une part, et d'autre part, je pense que l'agenda français n'est pas l'agenda américain. Objectivement, tous les paris qu'avait fait Emmanuel Macron en matière de politique internationale au moment de Donald Trump, qui est de l'autonomie stratégique encore une fois de l'Europe d'un point de vue militaire mais aussi d'un point de vue économique, la volonté de représenter l'Europe, ce qui n'a jamais été vraiment le cas, parce que malgré tout vous avez une préséance britannique en Grande-Bretagne en termes d'alliance militaire et puis une préséance économique de l'Allemagne aux États-Unis, rend un petit peu cette relation compliquée. Tout ce à quoi la France tient, son autonomie stratégique, contrevient à, d'une part, ce que veulent les États-Unis et, d'autre part, ce que veut une partie de l'Europe. C'est-à-dire on se discrédite un petit peu des deux côtés.
Ah oui.
Il y a une partie de l'Europe qui, vous le disiez tout à l'heure, pour l'instant, voit, a les yeux rivés sur l'Ukraine, voit les chars russes
et ne jure que par les Américains, la défense américaine.
Et d'ailleurs, ça se traduit dans les faits. Je rappelle quand même que l'Allemagne vient de décider d'un bouclier anti-aérien, anti-missile aérien, qu'ils ont concocté avec tout l'Est de l'Europe, en n'invitant pas la France, et en achetant sur catalogue des armements américains, ce qui a rendu furieux à Paris. Mais il n'empêche que là, pour l'instant, l'Europe a un problème immédiat, qui est la Russie et l'Ukraine, et qui est le seul à pouvoir, le seul pays à pouvoir y répondre, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 20 ans, avec des armes qu'on pourrait imaginer, ce sont les États-Unis, ils ont les moyens de leur répondre.
Étienne Lénard, c'est vrai qu'à la lumière de ce qu'on voit, est-ce que l'Europe de la défense voulue par Emmanuel Macron, quand on est à Varsovie, on se dit, moi je préfère les boys américains aux soldats français qui sont dans une logique nationale. D'ailleurs, il l'a dit lors de l'événement, il a dit la bombe nucléaire, c'est pour défendre le territoire français, hein, c'est pas pour défendre nos voisins.
Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde est lucide sur cette question. L'Europe de la défense, ça fait des années qu'on en parle et elle n'est pas pour demain, quels que soient les progrès qu'on peut faire sur l'avion européen. Mais enfin, ce sont des développements industriels qui sont sur le temps extrêmement long. Hein. On le voit, les stocks de munitions sont en train de baisser uniquement avec ce que l'on a donné aux Ukrainiens pour se battre. On est déjà en difficulté. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, nous, les ressorts, nous, Français, uniquement pour... Vu des États-Unis, la France est une moyenne puissance. Ben il faut bien s'en rendre compte. Ce n'est pas parce que le président de la République joue ce super coup diplomatique en allant là au dîner d'État. La France est une moyenne puissance. En revanche, d'ailleurs, c'est à tel point une moyenne puissance que lorsque les Américains dealent avec les Australiens et les Britanniques le fameux accord AUKUS l'année dernière, ils ne prennent même pas, ils font une grosse maladresse, ils ne prennent même pas le soin, même une fois l'accord signé, de prévenir les Français. C'est ça qui a brisé d'une certaine manière la confiance et le fait de se dire, mais on pourrait au moins nous prévenir. C'est un peu, je résume, mais enfin c'est un petit peu ça qui a fâché aussi la France. Donc on est une puissance.
C'est incroyable. Il n'y a pas eu le coup de fil, il n'y a même pas eu le coup
non,
de
fil. Non, et Joe Biden lui-même a reconnu, il a dit, nous avons fait une maladresse. Mais en même temps, s'il prévient pendant qu'il est en train de négocier, ça risque de chauffer. Sure. Donc il attend, mais au moins, une fois qu'il avait fini, il aurait pu passer un petit coup de fil. Pour en avoir parlé directement avec certains responsables français, ça les a quand même hyper étonné, ce point-là. Et donc, du coup, ils ont montré les crocs et ce dîner d'État est, d'une certaine manière, à 20%, on va dire, une réparation.
Sur cette troisième voie dont parlait Anthony Bélanger, qui peut agacer vu de Washington, en même temps, je reviens sur le célèbre épisode de Jacques Chirac refusant de cautionner la guerre en Irak des Américains et mettant son veto à l'ONU. Typiquement, est-ce que c'est le genre d'épisode qui laisse des marques en disant, finalement, ces Français, ils sont pas fiables? Ou est-ce qu'au contraire, ces Français, on les respecte un peu parce que ce sont des vrais amis qui, par moments, sont capables de vous dire dans les yeux, tu te trompes.
Je pense d'une certaine manière que ça peut avoir pesé. Je me trouvais aux États-Unis au moment de cette crise comme correspondant et il y avait véritablement un sentiment anti-français dans la population qui était assez fort. Mais il y avait au pouvoir à Washington, à la Maison-Blanche, des conservateurs, des néo-conservateurs. Ça n'est plus le cas de l'administration Biden, qui est une administration beaucoup plus europhile. Donc on arrive à beaucoup mieux se parler. Et je ne parle pas de la période Trump, où là, c'était carrément... le président de la République a fait la danse du ventre pendant 4 ans à Donald Trump. Et on a perdu sur tous les tableaux. Il est sorti de l'accord sur le climat de Paris. Il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, Donald Trump. Donc on n'a pas gagné tout le temps. Mais en même temps, et on l'a vu dans la chorégraphie de cette visite-là, le premier jour, je tape, je dis ces mesures de protectionnisme sont super agressives, ça risque de fractionner le monde, enfin voilà, des choses très fortes qu'il dit devant la communauté française à Washington. Et le deuxième jour, donc j'arrive en essayant d'avoir montré les crocs, et le deuxième jour, forcément c'est une visite d'État, je suis dans la première puissance mondiale, donc je me calme et je dis nous sommes amis, voilà, il y a une chorégraphie très très claire. Le tout pour essayer quand même de peser dans ce que l'on pourra obtenir. Et on verra dans les mois qui viennent ce qu'il a réussi à obtenir. C'est encore un peu tôt. Mais voilà, il y a aussi ce jeu-là. Mais je pense que de montrer les crocs quand on est européen face à une administration qui prend en compte quand même l'Union européenne, ça peut valoir le coup.
Oui,
pour être crédible, il faut se montrer ferme. Vous ne pouvez pas arriver dans un...
Même si vous pesez moins.
Même si on pèse moins, et surtout si on pèse moins, d'ailleurs. Parce que si on est dans une situation de rapport de force, il faut montrer que vous avez des atouts, que vous êtes prêt à utiliser la force s'il le faut. Et voilà, donc c'est... Alors après, il y a une partie de « en même temps » aussi dans le jeu d'Emmanuel Macron. Mais la France a toujours joué ce rôle de un petit peu plus... plus important qu'elle ne l'a en réalité. Mais c'est
une façon d'exister, de se dire j'essaie de me faire respecter.
Oui, on se souvient par exemple, moi je me souviens l'épisode de la crise des missiles de Cuba en 62, qui avait été grave, vraiment très très grave. C'était allé à quelques crans en dessous d'une guerre nucléaire, et Kennedy avait envoyé les photos au général de Gaulle, et de Gaulle avait dit: je vous fais confiance, je n'ai même pas besoin de les regarder. Donc ça, c'était ce genre de relation-là. Et au fil de l'histoire, il y a eu Mitterrand et les Pershing, il y a eu la première guerre du Golfe, il y a eu toute une série de rapports qui se sont faits de cette manière-là, avec un petit pays, une puissance moyenne, face aux États-Unis, qui malgré tout a joué son rôle. Il faut bien le dire aussi, Emmanuel Macron, là, est arrivé un peu comme le porte-parole de l'Europe, donc fort aussi du poids européen, même s'il n'y a pas d'Europe de la défense. Ça les agace.
Quand il a dit l'autre jour en Thaïlande, à Bangkok, quand on a deux éléphants super agités dans la jungle, sous-entendu les États-Unis et la Chine, pour les singes que nous sommes, c'est un petit peu compliqué d'exister. Les Américains n'ont pas du tout aimé être comparés à des éléphants agités.
Et qu'on les renvoie dos à dos avec les Chinois, surtout.
Absolument.
Ouais. Il y a un autre problème aussi, c'est que la France est peut-être le seul pays en Europe, ou en tout cas dans l'orbite occidentale, à se poser sur la question de son rang. C'est-à-dire cette espèce de question récurrente.
L'obsession
du rang de la France, un peu comme si on était des vieux aristocrates, qu'on passait notre temps à devoir déjeuner
avec des
hobereaux ou des paysans, et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait là, franchement ça fait 1000 ans que je fais de la diplomatie, de la géopolitique. Laissez-moi, j'ai été une puissance. On ne peut pas être et avoir été. Et cette espèce d'obsession française du rang pollue tous nos commentaires et toute notre vision du monde. Et c'était une chose que la Grande-Bretagne, excusez-moi, je connais bien les Britanniques, mais ne se pose pas quand il s'agit de s'allier avec les États-Unis dans l'Indo-Pacifique.
Ils sont passés à autre chose.
Oui, ils savent très bien que c'est pas le partenaire principal. Ils savent très bien qu'ils raccrochent leur wagon au wagon américain. Ils ne se font aucune illusion sur le sujet. De ce point de vue, je ne parle pas des conservateurs ou éventuellement des prurites de Global Britain, mais il y a une partie d'eux qui, au moins géostratégiquement, se dit, bon, écoutez, c'est plus nous, la patinoire n'est plus pour nous, on peut éventuellement se raccrocher à la puissance américaine. C'est le point d'accroche. Et c'est un peu, comment vous dire, fatigant d'avoir à chaque fois poser la question du rang de la France.
Alors, vous le disiez, en ce moment, Emmanuel Macron a la chance d'avoir à Washington une administration europhile. Ce n'était pas le cas sous Donald Trump. Donald Trump qui s'est représenté en 2024. Et si le retour des Républicains ou du Trumpisme à la Maison-Blanche pouvait à nouveau menacer et mettre fin, voire à cette proximité américano-européenne, et si Donald Trump revenait au pouvoir, sujet de Loïc Delamornay.
Ce n'était pas une surprise, tant il avait promis, avec sa modestie habituelle, le plus grand discours de l'histoire des États-Unis. Hier soir, Donald Trump, depuis son luxueux domaine de Floride, retourne dans l'arène.
Pour rendre l'Amérique grande et glorieuse à nouveau, j'annonce ma candidature à l'élection de président des États-Unis. Ce n'est pas une tâche pour un homme politique ou un candidat conventionnel.
Des éléments de langage qui ravissent toujours autant ses fans, une base galvanisée qui écoutait le discours derrière les grilles de la résidence.
Je suis si heureuse parce que je sens de l'espoir. Il est ce qu'il nous faut pour nous, le peuple. Il mérite une autre chance. L'élection de 2020 lui a été volée.
Vous croyez vraiment à ça ?
Bien sûr que je le crois.
Être toujours à l'attaque, toujours au centre de l'attention médiatique, une tactique qui a marché au début en tout cas. Désormais, Donald Trump accumule les difficultés, ennuis judiciaires à venir et surtout élections demi-mandat décevantes pour les Républicains, notamment pour les candidats trumpistes. Un grand rival monte, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. La lutte promet d'être sanglante.
Mais les observateurs sont prudents. Donald Trump reste un animal politique qui sait rebondir. Il aura toujours une base extrêmement fidèle en vue de primaire à droite et il garde une capacité de levée de fonds financière inégalée au sein du Parti républicain.
Étienne Hénart, un président républicain, quel qu'il soit en 2024, pourrait s'avérer isolationniste et vouloir, pourquoi pas, sortir de l'OTAN, couper ce lien militaire transatlantique ?
Alors, ça dépend de quel bord du Parti républicain ce président serait. Il y a aujourd'hui au sein du Parti républicain un énorme débat de savoir si Donald Trump peut être la personne qui leur permettra de revenir à la Maison-Blanche dans maintenant 2 ans. Si c'est un candidat républicain historique, ils ont par exemple vis-à-vis de la Russie une attitude qui sera la même que Joe Biden, c'est-à-dire il faut combattre la Russie, même s'il y a au sein du Parti républicain et au sein de la société américaine un débat maintenant sur est-ce qu'on n'en a pas fait assez pour l'Ukraine. Il y a toute une partie du Parti républicain qui souhaite damer le pion à la Russie. Donc ça ne devrait pas forcément changer et qui restera dans l'OTAN. La question est bien celle-là, c'est de savoir, dans le Parti républicain, au sein du Parti républicain, si c'est la frange Donald Trump qui l'emportera ou si c'est la frange plus traditionnelle du Parti républicain, avec par exemple le gouverneur de Floride à sa tête, qui sera à la Maison-Blanche, auquel cas on aura une politique certes extrêmement à droite, mais beaucoup plus classique, en termes de rapports internationaux et de diplomatie.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir décrypté pour nous cette relation, cette vieille relation France-Amérique, plus de 200 ans, on l'a dit, des frères d'armes, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Vous restez sur France Info. Je rappelle que ce week-end, France Télévisions se mobilise pour la 36e édition du Téléthon. Alors, vous pouvez faire un don par téléphone au 36 37. C'est un appel gratuit depuis un poste fixe. Ou par SMS 92 007 en envoyant « don ». Un montant de 10 euros sera prélevé directement sur votre facture de téléphone mobile. On ne lâche rien, c'est la signature de cette 36e campagne du Téléthon. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir suivi l'Info C'est Clair. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end et bonne journée sur France Info.